Bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Svatman à la technique. Content de te revoir. Salut Nicolas.
Salut.
Ouais. Ok, là, on va démarrer l'émission aujourd'hui. En première partie d'émission, j'ai concocté quelques différents sujets. On va parler un peu de climat, de Roland Garros, mais j'ai pas le choix. C'est tous les jours, ça joue. Il y a des grosses têtes qui tombent. Il y a des nouvelles têtes, des jeunes têtes qui vont de l'avant. En demi-finale, en quart de finale, ainsi de suite. Il faut en parler. Et puis, voilà. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Laurent Sirac, qui est ingénieur chargé de projet pour nous parler du début des travaux de revitalisation de la plaine des Jeux, des nouveaux services pour les visiteurs du parc Jean Drapeau. Alors, elle est ingénieure chargée de projet, là. Là-bas, Laurent Sirac, 17h30, elle va venir nous donner quelques infos, quelques détails sur ce nouveau projet-là. Ouais, ils ont reçu de l'argent, comment ils vont le dépenser pour ce projet 2020, 2022, 2023, 2024, jusqu'à je ne sais quand. Alors, 2030, pourquoi pas? Et si ça, je pense que ça peut leur suffire de s'occuper de ce grand projet-là. Alors, comme je l'ai dit, et tout de suite, ça c'est en deuxième partie d'émission, hein, mon invité. Maintenant, on va parler tout de suite de tennis. Alors, qui continue, qui abandonne, qui a perdu, qui est malade, qui s'est blessé? Abandon de Jannik Sinner. Audrey Rublev est en quart de finale. Bon, ça, c'est hier. Bon, j'espère qu'elle va se qualifier aussi pour les demi-finales. Bon, ben, donc, Jannik Sinner n'ira pas plus loin que les huitièmes. Voilà. Il a été touché au genou gauche. Hein. C'est ça, c'est toujours comme ça. Ça a été le cas aussi de la jeune québécoise dont je vais parler un peu plus tard d'ailleurs. Il a dû abandonner Jannik. Voilà, son huitième de finale face au Russe André Rublev, 1-6-6-4-2-0. Abandon. Voilà. Au troisième set. Ça, c'est pas bon, ouais. C'est ça. C'est. Il pouvait pas continuer. Il a été blessé. C'est tout. C'est comme ça. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire ici. Le tennis, c'est un sport individuel. C'est pas un sport d'équipe où il y a des gens, quand tu ne vas pas bien, d'autres qui peuvent venir prendre la relève, te secourir, tout ça. Non, tu es face à ton adversaire et il faut aller de l'avant. Il faut cogner, il faut avoir le physique, le mental. Il faut pas que les chevilles, les genoux, les cuisses, les jambes, il faut que tout fonctionne bien. Voilà, pour pouvoir terminer ton match, que tu le perdes ou tu le gagnes, ça c'est pas. Donc il a été touché au genou gauche depuis son match précédent face à Mackenzie McDonald, italien, qui a été contraint à l'abandon après avoir senti une vive douleur sur ce même genou à 2-1 dans le deuxième set sur une reprise d'appui. Il pouvait pas. Ouais, le genou joue beaucoup au tennis. Hein. Les mouvements, quand on les voit là, quand on regarde les vidéos, pour nous qui regardons la télé, ceux qui sont dans les stades, eux, ils voient ça en live même, comme ça, on peut le dire. On le voit en live aussi à la télé quand on voit les résumés. Donc après l'intervention de son kiné et un temps mortel médical, Sinner, qui avait parfaitement entamé le match et remporté aisément le premier set, a bien tenté de poursuivre, mais il a été visiblement trop en difficulté sur les courses latérales, les appuis lourds, et a préféré jeter l'éponge, comme on dit, et en début de troisième set. Ouais, c'est vraiment... Ouais, il peut rien... Et pourtant, il a gagné le premier set, hein, 6-1. Ouais, puis l'autre est revenu 6-4, voilà, 2-0. Donc, bien mieux en place et plus tranchant dans le deuxième set. Il va retrouver donc les quarts de finale comme en 2020, mais il ne pouvait pas continuer, quoi. Ouais. Il avait été battu en 2020 d'ailleurs par Stefanos Tsitsipas, le grec. Le russe va affronter le vainqueur du dernier huitième de finale discuté lundi. Ça s'est passé hier d'ailleurs. Medvedev qui peut pas continuer, hein. C'est Marin Cilic qui continue. Donc c'est lui que André Rublev va rencontrer, Medvedev, le deuxième mondial. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là-bas à Roland Garros. Il y a des grosses têtes qui tombent. Et aujourd'hui, je ne sais pas, Nicolas, je vais te demander de jeter un coup d'œil. À 21h, c'est-à-dire 15h chez nous, ça a déjà commencé. Djoko, Nadal. Ça a déjà commencé. Je ne sais pas où ils en sont déjà. Je ne sais pas où ils en sont déjà. Qui mène, qui gagne, qui est en train de souffrir, qui est en train de se faire masser par son kiné. J'ai aucune idée. Nicolas va jeter un coup d'œil et puis il va me le dire afin que je puisse en parler d'ici la fin de l'émission. Merci Nicolas. C'est mon complice là-bas, la console. Alors, Marin Cilic, qualifié pour les quarts de finale. Il dit, je suis là pour longtemps. Ah, lui, il badine pas, hein, il n'a pas. Il dit, je suis là pour longtemps. Ça veut dire que je vais pas me laisser éliminer. Il a réalisé un match de grande qualité contre Daniil Medvedev. Après la correction 6-2, 6-3, 6-2 infligée à la tête de série numéro 2. Ouais. Du, tu veux me parler? Oui, vas-y.
Eh bien, pour justement Nadal contre Djokovic, eh bien Nadal est 1-7-0.
Oui.
Il a gagné le premier set 6-2. Et présentement, on est au deuxième set à 4-3 pour Djokovic.
Oui.
Mais c'est Nadal qui a le service présentement et c'est pas mal égal. Donc, c'est à voir si on s'en va au septième ou on reste au 6.
Je pense pas qu'ils vont jouer encore 20 minutes comme il a fait face au jeune Félix et au Aliassine. Oui, 4 heures de temps, 21 minutes. Alors bon, de toute façon, Djoko n'a pas eu ce temps-là à son match précédent. Il n'a pas joué si longtemps. Donc je pense bien qu'il va se ressaisir. Et puis, moi, de toutes les façons, j'aime les deux. Que le meilleur gagne. Merci, merci de l'info. D'ici la fin de l'émission, tu vas me donner encore des nouvelles pour que je puisse informer nos auditeurs. Alors, le jeune Marine Cilic, qui est qualifié pour les quarts de finale, il dit « Je suis là pour longtemps. » Ça veut dire que je ne me laisserai pas battre. Je vais aller en finale. Bon, ben, ouais, c'est ce qu'il veut. Il veut, tout le monde veut arriver là-bas, mais c'est pas tout le monde qui arrive. Il dit « J'ai eu un super feeling aujourd'hui. Les choses se sont connectées. Les choses se sont connectées dans mon jeu. J'ai gardé mon calme et joué un tennis de haut niveau tout au long du match. Il fallait que je me concentre sur moi-même. Et sur le jeu, j'ai breaké deux fois dans le second set, mais on ne sait jamais contre Daniil, numéro 2 mondial. Voilà. Et là, c'est mercredi, je joue. Un autre russe, un tueur. Il parle de l'autre dont je venais de parler là. Andrei Rublev. Il est un tueur. Il a de l'humour là, Marin Cilic. Voilà. Et du côté des femmes, il y a Iga, la grande Iga, la polonaise Swiatek, qui a été bousculée par Qin Wenzhang, mais qualifiée quand même pour les quarts de finale. Ça, c'est clair. Je ne sais pas quand qui va jouer pour aller en demi-finale. Invincible. Ces derniers mois, Iga a été bousculée en huitième de finale de Roland Garros. La polonaise, titrée en 2020, a cédé la première manche après un énorme combat qui promettait une suite indécise. J'ai vu le résumé du match, je me suis dit « Ouh, elle va arriver ouais, !» ouais. Mais son adversaire, touché à la cuisse droite, n'a pas tenu la distance. 6-7, 6-0, 6-2. Voilà. La chinoise pouvait le continuer, hein. Elle pouvait continuer. Voilà, c'est voilà ce qu'il faut faire pour faire vaciller Iga, et voilà ce que ça coûte de lui prendre un set. Avant de perdre ce premier set contre Zeng, Iga restait sur 27 remportés de suite entre Stuttgart, Rome et le début de ce Roland-Garros là. La chinoise, c'est une jeune, hein, 19 ans, ouais, Zeng, c'est 19 ans. Pourtant, elle a fait tout ce qu'il fallait pour tenter d'interrompre l'incroyable série de victoires 32 de suite de Iga. Ouais, Iga Swiatek, la polonaise, remarquée lors de ses premiers tours, et c'est grand. Sans grand chose à perdre pour son premier Roland Garros, déjà réussi avec ce huitième de finale, elle a fait trembler la favorite de ce tournoi. Tout n'a pas vraiment bien commencé. Elle a été menée 5-2 dans la première manche, mais elle a réussi quand même à écarter les trois premières balles de 7 de sa rivale. Ah, mais il y a quelque chose qui s'est un peu plus loin, les deux premiers matchs aussi de suite. C'est quelque chose qui, quelquefois, quand je regarde le résumé des matchs, je vois un peu la différence d'âge ou bien la différente manière de jouer. Tu te dis, ouais, on sent que les gens ne viennent pas de la même école. Ces joueurs, ces joueuses ne viennent pas de la même école. Et puis, elle a eu un problème. Voilà, c'est plus tard qu'elle l'a dit, hein. Zeng, la chinoise de 19 ans, elle a été diminuée par ses règles douloureuse. Oui, oui, elle avait sa période menstruelle lors de sa défaite face à Iga. Elle ne disait pas « règles », mais elle disait les trucs des filles. Les trucs de filles, voilà, qui le premier set ça allait. Et puis tout d'un coup, il y a le mal de ventre qui s'est accentué. Ça c'est après le match qu'elle a pu dire ça, mais elle n'a pas dit les règles, mais elle a dit les trucs de filles. Ça, c'est quand les filles ont tous les mois. Elle a dit quand même, elles sont rares à en parler, bon, tant le sujet peut-être tabou dans le sport. Et Zeng n'a d'ailleurs jamais prononcé le mot règle, lui préférant l'expression des trucs de filles. Mais la chinoise a tout de même expliqué en conférence de presse que sa baisse de régime en cours de match face à Iga était lié à des douleurs périodiques sur le court. Au moment où elle a appelé le kiné, ce n'était pas très clair, mais elle était revenue des vestiaires avec un bandage autour de la cuisse droite qui laissait penser à un souci musculaire. Elle a dit que c'était aussi compliqué avec la jambe, mais ce problème-là était facile à comparer à ce que je ressentais au ventre. C'est juste des trucs de filles. Voilà, c'est toujours dur le premier jour, mais je dois jouer avec cette grosse douleur du premier jour. Je ne peux pas aller contre ma nature. J'aimerais être un homme sur le court dans ce genre de moment. Je n'aurais pas souffri de ça. Elle est drôle. Je pense bien qu'elle va se ressaisir la prochaine fois. Ouais. Je voulais me battre. Je le voulais vraiment, mais je n'avais plus la force. Donc, c'était vraiment difficile. Voilà, parce que la souffrance a été plus forte pour elle après un peu plus d'une heure de match où elle pouvait plus résistante. Elle a sauvé 5 balles de premier match et percutant dans le jeu, elle avait pourtant réussi l'exploit d'arracher le set d'ouverture à la polonaise, invaincue depuis février. Donc, dans le premier set, elle dit « J'ai juste essayé de jouer mon jeu. J'étais capable de vraiment être là et d'avoir la bonne attitude. » Oui, mais ça n'a pas marché. La douleur a fini par me rattraper. C'est ça. Plus le match avançait et plus j'avais des douleurs au ventre, je voulais me battre. Je le voulais vraiment, mais je n'avais pas la force. Donc c'était difficile. Je n'ai pas pu montrer mon tennis dans les deuxième et troisième sets. Après le gain du premier set, ouais, elle en avait perdu 8 jeux de suite avant de réussir à réagir. Quand elle l'a fait en stoppant la série adverse, il était déjà trop tard et n'a plus jamais montré son niveau du premier acte. 6-5, 6-0, 6-2. C'est la défaite. Ah non, c'est vrai. Hein. Ouais, je pense bien que ça va plus lui arriver comme ça en plein match. Hein. Ouais, cette période. Ces trucs de fille, je préfère employer son terme aussi. Ces trucs de fille, ça fait mal quand même. Hein, hein. Ça fait mal. Tu abandonnes, tu perds un match pour ça, pour cette douleur au ventre. Tu te dis, mais au fait, qu'est-ce que je fais là? Alors. Qu'est-ce qu'on fait? On va écouter un peu de ouais, notre première pièce musicale. Et puis j'ai d'autres sujets, c'est pas fini. On va parler de la jeune Coco Gauff, la jeune américaine qui part en demi-finale. On parle très peu d'elle, très 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 peu d'elle. Coco Gauff, 19 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, après la plage musicale.
Say to turn it all around and put a smile right on my face. Yeah. To me, you are a blessing, and I sure appreciate how you change negative to positive and brighten up my day. And whenever I get weak and lose my will to carry on, I just look at you, cause you give me the reason to be strong. If it wasn't for you, I just don't know where I would be. So tonight I'm gonna celebrate your love for me, cause
people like you, they make the world go round.
Oh, yes it is.
It's people like you,
oh yeah,
they make the world go round.
They keep going round and round and round. Whenever I was cold, you knew just how to keep me warm. You were my shelter in the middle of my storm. And whenever the mountains came crumbling down on me, that you were out of nowhere to lift me up and set me free. And whenever I thought that I could not go anymore, girl, you came into my life and you opened up more doors. And now I don't have to look no further when it comes to love, cause girl, you are a gift sent down to me from up above. Based on color,
girl,
take my hand, and tonight we're gonna show the whole wide world just how to dance. Go!
I want to, I want to. Woo! Let it blow. You feel good, I feel good. Now we're gonna step around the world tonight and step into the light. It goes on one, two, three, here we go.
Step, step, step to the side. Step to the left, then step to the right. Step, step, step to the side. Step all night, then step to the light. Step, step, step to the side. Step to the left, then step to the right. Step, step, step to the side. Step all night, then step to the light. Step, step, round and round. We're gonna step all night to the funky sound. Step, step, round and round. We're gonna step all night till the roof come down. Step, step, round and round. We're gonna step all night till the funky sound. Step, step, round and round. We're gonna step all night till the roof come down.
DJ Cassidy. Chaos. Come on.
Round and around
we go.
Come on.
Round and around
we go.
Come on, y'all.
Round and around
we go.
Come on.
Round and around.
Come on, y'all.
Good night, everybody. And get home safe.
Ouais, c'était DJ Cassidy, Make the World Go Round, avec la complicité de R. Kelly. Voilà, j'ai continué avec le tournoi Roland Garros à Paris, bien évidemment, comme je l'avais dit avant la plage musicale. La jeune américaine de 18 ans, Coco Gauff, elle fait son petit bout de chemin. Hier, elle avait battu, elle s'était qualifiée pour les quarts de finale d'ailleurs, et je pense bien que quand j'ai vu ça, je me suis dit, celle-là, elle va aller en demi-finale. Elle-même, elle risque d'arriver en finale. Elle a battu la Belge Elise Martens. Oui, 31e tête de série. Voilà. 6-4-6-0. C'est court, hein? Très court. Très court. Ouais. Ça va vite au cours Philippe Cartier samedi. Là, ça s'est passé comme ça, rapidement, là. Donc, Goff a fait irruption sur la scène de Wimbledon à l'âge de 15 ans. Oui. Ouais, à 15 ans, il était sur Wimbledon. En devenant la plus jeune qualifiée de l'histoire du tournoi, en battant Venus Williams et en se qualifiant pour le 4e tour. Ça, c'était en deux. Elle avait 15 ans, il y a 3 ans de cela. Elle a 18 ans maintenant. Ah, je l'adore, la petite. Ah, je l'adore bien, elle. On avait fait son petit bout de chemin lorsqu'elle a perdu contre l'éventuelle championne Barbora Krejčíková. Et maintenant, elle est de nouveau arrivée aussi loin. Ouais, elle est cartonne à Paris. 18 ans. Voilà, c'est qualifié en battant la Belge. Ça, c'est vraiment 1h30, pas plus. Même pas 2h de temps. 1h30, elle a fini. Ah, dit, je vais me reposer, je vais me préparer pour le prochain match. Ah non, quand je vois ces jeunes filles, ces jeunes gens, ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui vont de l'avant comme ça, comme quelqu'un disait dans les commentaires, on a assez entendu les autres noms là, les Rafa, les Djoko, les Medvedev, les Zverev. On veut entendre d'autres noms maintenant là. Il faut que la jeunesse prenne le relève là. Voilà, au fur et à mesure qu'on avance quoi. Je comprends, j'ai compris cette personne qui a fait cette déclaration. La jeune femme se retrouve en quart de finale. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon jeu. J'ai le sentiment qu'à chaque match, je m'améliore. Je veux savourer les matchs. Avoir le contrôle de mon tennis, donner le meilleur de moi-même, a-t-a déclaré d'ailleurs en conférence de presse. Waouh, c'est vraiment quelque chose. Hein. Bravo Coco Gauff, Coco Gauff. Voilà, là maintenant, qui elle a rencontré? Elle a rencontré sa compatriote Sloane Stephens, 7-5-6-2. C'est la 23e joueuse mondiale. Voilà. Oui, elle va affronter maintenant en demi-finale là, l'Italienne Martina Trevisan. Pour une place en finale. Vous imaginez, là, la petite, là, de 18 ans, en finale de Roland-Garros. Si elle arrive en finale, c'est que c'est le trophée va repartir, va aller aux États-Unis, le trophée féminin. 18 ans, elle s'est qualifiée pour la demi-finale. Voilà, ça s'est passé aujourd'hui. Elle a éliminé sa compatriote Sloane Stephens. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime son jeu. La nouvelle génération, c'est des gens, c'est des jeunes filles, c'est des jeunes garçon qui m'épate beaucoup. Hein. Et puis, ces deux filles qui vont s'affronter, Martina Trevisan et l'autre, Coco Gauff, c'est la première fois qu'elles atteignent une demi-finale comme ça. Hein. C'est des néophytes. Et comme l'Italienne, avant elle, 18, et c'est qu'elles, les deux vont se rencontrer. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour la première fois de sa carrière, demi-finale, avoir perdu le moindre set en route. Elle n'a même pas perdu. C'est vraiment ouais. Bravo, Coco Gauff. Coco, c'est C-O-C-O. Hein. Gauff, c'est G-A-U-F-F. Voilà. Et puis, il y a Martina Trevisan qui élimine celle qui va rencontrer l'Italienne, qui a éliminé Leila Fernandez. Leila aussi s'est blessée. Voilà, c'est ce qui fait qu'elle a perdu face à l'Italienne d'ailleurs, et qui va jouer sa première demi-finale face à Coco. Donc l'Italienne Martina Trevisan qui a dominé Leila aujourd'hui en quart de finale, 6-2, 6-7, 6-3. Il va jouer sa première demi-finale aussi, en grand chelem. Son chemin a été moins rectiligne que d'autres, hein, plutôt du genre tortueux même, puisque pendant 5 ans, elle s'est éloignée du tennis. Et puis elle revient, 28 ans maintenant. Elle va rencontrer la jeune de 18 ans, voilà, en demi-finale. Il y a 10 ans d'écart quand même. Est-ce que c'est l'expérience, est-ce que c'est l'âge qui va compter, ou bien c'est la jeunesse et la fugue de frappe, ouais. Est-ce que c'est ça qui va compter? J'ai aucune idée. Ouais, que la meilleure gagne, c'est ce que je leur souhaite. Ouais. Elle a retrouvé sa voix quand même, et puis elle s'est réconciliée avec son sport et son corps. Et jouer, voilà, ça va se passer quand? Oui, jeudi, après-demain. Cette demi-finale, Coco Gauff et cette jeune, cette Italienne, Martina Trevisan. Ouais, sa première demi-finale en Grand Chelem, 2 ans après avoir joué son premier grand tableau en majeur, pour se hisser dans les derniers carrés de Roland-Garros. Elle a battu Leila 6-2, 6-7, 6-3. Voilà, ça c'est quelque chose. Ouais. Leila, elle avait fait appel très tôt à son kiné dans le premier set pour une intervention au pied droit, rapidement montré qu'elle était en difficulté sur certains déplacements, mais elle s'est battue avec ce qu'elle avait pour perturbé l'italienne qui a d'abord parfaitement géré son match et mené 6-2 5-4. Balle de match à suivre. Fernandez a envoyé un coup droit, un coup droit long de ligne gagnant et Trevisan s'est mise à douter jusqu'à livrer ce tie-break catastrophique d'ailleurs face à une joueuse presque aussi maladroite qu'elle est dans ce jeu décisif. Mais la 59e mondiale qui fera son entrée dans le top 30 lundi matin, lundi prochain, a réussi à se ressaisir après cette fin de deuxième, 7-18, la boule au ventre, 18 fautes directes dans cette manche pour elle, 29 en tout, c'est un peu trop, non? Oui, c'est ce que je veux dire. Ouais, rapidement, si je peux parler encore de qui? J'ai encore quelques minutes là pour parler un peu de soccer, de foot. Le Brésilien, le défenseur brésilien Marcelo, qui confirme son départ du Real Madrid. Bien sûr. Ouais, ce qui s'est passé d'ailleurs après le match, le capitaine du Real Madrid, Karim Benzema, qui portait le brassard de capitaine, lui a remis. Il n'a pas joué, il était sur le banc de touche. Hein. Et Karim Benzema est venu lui remettre le brassard de capitaine et lui a remis la coupe pour qu'il soit le premier à soulever cette coupe-là qu'ils ont eue le samedi à Paris. Voilà. Il a confirmé qu'il quitte le Real Madrid où il aurait passé 15 saisons et demie. C'est beaucoup hein, pour un joueur de foot. Passif, voilà, ce qu'ils sont là. Donc, après le match, le latéral gauche, il a 34 ans maintenant, il a confirmé au micro de qu'il quittait le Real où il sera resté 15 ans et demi. C'est une émotion incroyable parce que c'est mon dernier match au Real. A-t-il confié, je quitte Madrid et reparti avec une Ligue des Champions. C'est une immense joie. Ce n'est pas un jour triste. J'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire à Madrid. J'ai eu la chance de passer 15 ans et demi dans le meilleur club du monde. Voilà, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Qu'il y a un club qui est plus puissant que le Real de Madrid. 14e trophée. Il était arrivé en 2007 d'ailleurs de Flomessine. Et puis, voilà, vainqueur de la Ligue des Champions. Quintuple 2014, 2016, 2017, 2018 et 2020. Il a aussi remporté la Liga 6 reprises. Ouais, la Coupe d'Espagne 2 fois et la Super Coupe d'Espagne 5 fois. Sans oublier 3 Super Coupes. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir l'ingénieur chargé de projet pour des nouveaux services pour les visiteurs du parc Jean Trapeau. Voilà, Laurence Sirard, ingénieur chargé de projet qui va nous parler de ces deux phases de projet qui commencent maintenant, voilà, qui commencent bientôt là. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. Je vous reviens avec elle, bien sûr, avec l'invité. Après, juste la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 1718 avec Fulgence Blas.
Ah oui, vous y êtes. Escale 17-18, c'est la deuxième partie de l'émission. Mon invité est déjà au bout du fil, Laurence Sirard, ingénieur chargé de projet. Je l'ai invité pour nous parler de ces débuts de travaux de revitalisation de la plaine des Jeux du parc Jean Trapeau. Je sais, il n'y a pas mieux placé qu'elle pour nous parler de ça avec cette grosse somme d'argent qui vient d'arriver là-bas pour développer, pour revamper certains bâtiments là-bas. Bonjour Laurence Sirard.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Merci d'avoir eu le temps de venir nous parler de ça d'ailleurs. C'est vraiment intéressant. Comment est-ce que vous sentez quand il y a de l'argent, une enveloppe qui vient comme ça pour revamper le parc?
Ben, c'est sûr que c'est excitant. Là. Ça fait longtemps, ça fait plus d'un an là, qu'on travaille sur la conception du projet là, avec différents ingénieurs et architectes.
Oui.
Puis là, on commence enfin la première phase des travaux. Donc, c'est fun de voir le fruit de tout ce travail-là se concrétiser devant nos yeux.
Oui. Est-ce que c'est suffisant, 10,5 millions?
Ce sera suffisant pour faire la première phase, évidemment. Dans le fond, la première phase, ça consiste en la restauration de deux bâtiments, donc un chalet de parc puis un abri pique-nique. Oui. On aura besoin de plus d'argent pour faire la revitalisation là, du reste du paysage.
Oh, oui.
La deuxième phase, donc dans un an.
Oui. Et la deuxième phase, comment est-ce qui va vous financer ça? Est-ce que les deux gouvernements vont s'impliquer encore ou bien c'est le fédéral, c'est le provincial ou bien il y a des bailleurs de fonds privés qui vont dire « Ah, c'est tellement beau le projet qu'on va essayer de donner aussi un peu d'argent ».
Non, à la date, c'est uniquement financé par les fonds de la ville de Montréal.
Ah oui?
Donc, c'est directement la ville de Montréal.
La ville de Montréal, ouais, avec la Société du Parc Jean Trapeau qui ont annoncé d'ailleurs cette première phase des travaux de revitalisation. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut qu'on en parle, là, effectivement, parce que c'est une revitalisation d'espaces patrimoniaux pour améliorer l'expérience citoyenne. Alors, ça va s'étendre jusqu'à, j'ai bien développement 2020-2030.
Oui, ça c'est en fait 2030, c'est pas seulement mon projet, mais c'est tout le plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean Drapeau.
Oui.
Donc c'est un grand projet là, de plus de 900 millions de dollars là, qui sera investi dans les 10 prochaines années au parc Jean Drapeau et qui va revitaliser complètement les deux îles. Donc,
oui, oui. Plusieurs projets. Pour ceux qui nous écoutent là, ils vont se dire, mais il y a des gens qui vont, ils vont se demander, mais qu'est-ce que c'est qu'un projet de réhabilitation? Expliquez-leur un peu au fait du secteur de la plaine des Jeux.
Ouais. Oui, bien sûr. Donc, la première phase, le chalet qui a été construit dans les années 60, c'était originellement un casse-croûte avec des vespasiennes.
Oui.
Puis, ça fait plusieurs années là, que ça a été abandonné, puis c'est seulement un lieu d'entreposage. Donc, nous, on va complètement rénover ce chalet-là pour qu'il devienne un chalet plus de parc, là, typique, comme un peu on le retrouve au Mont-Royal ou au Parc La Fontaine, par exemple. Mm-hmm. Puis, le but, ce sera que ce soit une utilisation libre, conviviale, pour se réfugier, manger, accueillir des grands jours, les familles. Ça va être le premier bâtiment fait au parc qui va être ouvert et gratuit là, en tout temps, donc non privatisé. Puis l'abri pique-nique, l'autre bâtiment qu'on rénove dans le cadre de ce projet-là, on va lui redonner son, comme à l'origine. Donc c'était un refuge climatique lui aussi. Il y a aussi un foyer au bois dans ce refuge-là.
Oui.
Puis on va le restaurer, on va pouvoir faire des feux, puis on va aussi ajouter une grande terrasse là, avec des barbecues au charbon, puis des immobiliers urbains là, pour qu'on puisse se retrouver entre famille et amis là, au parc Jean Drapeau.
Ah, comme on dit en bon québécois, la totale, quoi!
Ouais, on souhaite vraiment redonner le plus possible aux citoyens. On les avait consultés avant le projet pour savoir qu'est-ce qui les intéressait d'avoir dans ce lieu-là. Puis ce qui était ressorti le plus, là, c'était d'avoir des nouveaux lieux pour se retrouver en plein air.
Oui, waouh, génial. Voilà, ça je me suis dit, bon, ben, il faut en parler, parce que là, vraiment, c'est comme si... alors, si, par exemple, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi c'est gratuit, même, au fait? Pourquoi c'est gratuit? Pourquoi vous dites, il n'y a pas... Pourquoi vous ne pouvez pas inviter... bon, je sais pas que c'est vrai. Je sais que ce n'est pas vous qui prenez les décisions. voilà. Mais permettez-moi quand même de vous poser la question. Pourquoi est-ce que, bon, parce que vous allez dépenser de l'argent, hein, vous et la ville de Montréal, la Société du Parc Jean Drapeau et la ville de Montréal, mais quand même pour essayer d'avoir un peu d'entrée d'argent, je veux dire, même si c'est 5 dollars qu'on va payer ou bien pas, pour profiter de ces espaces que vous allez revamper, là, ça ferait du bien, non, pour essayer de, pour l'entretien et autres, tout ça, ou bien je suis dans le champ.
Ben, en fait, le parc Jean Drapeau, c'est grand, puis il y a plein d'autres espaces qui sont en location, justement. On a des salles de mariage, il y a des salles qu'on peut louer, il y a le complexe aquatique.
Okay.
C'est toutes des activités payantes. Puis
oui.
C'est des activités, souvent, au parc aussi, il y a des promoteurs qui exploitent beaucoup le parc Jean Drapeau là, avec différents festivals. Donc, c'est toutes des activités payantes. Et là, le but, en fait, c'est justement de plutôt rendre le parc comme un parc montréalais où on peut y accéder gratuitement et librement, puis qu'on puisse adonner à des activités libres, là, comme la plaine des Jeux, c'est dans la deuxième phase où on va revitaliser tout l'espace vert. Le but, c'est de donner juste une grande, la plaine, dans le fond, là, la remettre verte et bonifier le couvert végétal et les espaces verts pour que les gens puissent faire du sport, faire voler leur cerf-volant, par exemple, des choses comme ça.
Oui, oui. Et ce que j'ai vu dans les recherches, dans les documentations, c'est que la première phase des travaux de revitalisation de la plaine est prévue du mois de mai 2022 à mars 2023. D'ici là, vous avez fini. Et puis la deuxième phase, et ainsi de suite. Bon, jusqu'en 2024. Bon, je me dis, si l'intempérie ou bien s'il y a des problèmes de retard, est-ce que vous êtes, l'équipe est prête, ça doit partir, les compagnies que vous avez contactées pour faire la réhabilitation sont prêtes, tout doit aller de table pour que les dates soient respectées, quoi, pour que les gens se disent, ah, en mars 2023, on pourra aller là-bas, on pourra profiter de ce beau lieu-là. Et il faut que ça arrive dans les délais fixés, quoi.
Oui, c'est sûr qu'on a des dates fixes dans l'appel d'offres qu'on a lancé, puis le contrat qu'on a avec l'entrepreneur.
Oui.
On vise définitivement en mars 2023.
Oui.
On va tout faire pour y arriver. C'est sûr que, comme on connaît en ce moment en construction, il y a des difficultés là, au niveau de l'approvisionnement puis de la main-d'œuvre. Donc, c'est sûr que ça, ça complexifie notre tâche, mais on a les moyens et on a le toute l'équipe là, pour y arriver, ils vont faire notre possible pour que ça soit prêt en 2023. Puis ensuite, la phase 2 va commencer. Dès que la phase 1 se termine, on va commencer la phase 2 pour revitaliser plus l'aménagement paysager.
Oui, oui. Qu'est-ce que ce gros projet-là représente pour vous en tant qu'ingénieur qui fait partie de ce projet? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous vous dites, ouh, enfin, on peut aller de l'avant.
Ben oui, mais c'est un très beau défi. Puis je suis contente qu'on m'ait fait confiance pour ce projet-là. C'est vraiment motivant pour moi parce que c'est un lieu que je vais utiliser moi-même comme citoyenne. Donc, c'est très motivant là, de travailler sur un projet que je vais pouvoir utiliser puis amener à ma famille, mes amis. Puis, c'est vraiment intéressant.
Ah, génial. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent. Mais dans ce cas-là, s'il y a des gens qui... je sais que vous recevez de l'argent de la ville de Montréal. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent qu'ils veulent faire des... Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire des dons quand même, qui peuvent participer financièrement?
C'est une très bonne question.
Ouais. Je dis, c'est pas vous qui prenez les décisions. Voilà, c'est vrai. Allez, je suis très content. Mais c'est un dernier mot pour avant de vous laisser partir. Qu'est-ce que vous pensez dans l'avenir de ce grand parc d'ailleurs, la cité du parc Jean Drapeau, tout le monde sait à peu près où c'est situé, pour les Montréalais bien sûr, même des gens qui sont en dehors de Montréal, qui connaissent bien ce lieu. Comment vous voyez l'avenir de ce parc-là?
Ben, je pense que ça, justement, là, suite au plan directeur qui va le transformer là, d'année en année, ça va devenir un lieu vraiment plus intéressant là, où on pourra... ça devrait devenir une destination, je le souhaite, là, pour tous les Montréalais, puis ça va devenir... autant comme le Mont-Royal, là, dans l'esprit des gens, ils vont vouloir y aller, puis on va pouvoir s'y retrouver. Puis de plus en plus, ça, je souhaite que ça soit connu et de plus en plus utilisé. Là,
pour les amoureux du plein air et des loisirs.
Exactement.
Merci à vous, Laurent Sira, ingénieur chargé de projet. Merci, à la prochaine, au prochain projet.
Oui, bien sûr.
Au revoir.
Au revoir.
Home is where I want to be. Pick me up and turn me around. I feel numb, bummed with heart. I guess I must be having fun. The less you say about it, the better. Make it up as we go on. Feet on the ground, head in the sky. It's okay, nothing's wrong. Hey, I got plenty of time. Hey, you got light in your eyes, and you stay. Passing of time, never for money, always for love. You cover up and say goodnight.
the same space for a minute or two. And you love me till my heart stops. You love me till I'm dead. Eyes all lit up, eyes look through you. Cover up the blank spots, hit me on the head, oh. Hit me on the head.
Must be the place. C'est tout nouveau, ça. Voilà. Prix de l'inventeur européen 2022. Il y a trois Français qui sont parmi les finalistes. Les lauréats seront annoncés au cours d'une cérémonie virtuelle le 21 juin prochain, 2022. Voilà. L'Office européen des brevets a dévoilé les 13 finalistes du prix de l'inventeur européen. Parmi eux, il y a trois Français. L'immunologiste Élodie Belnou, la chimiste. Claude Grison, ouais, c'est une chimiste, ouais. La chimiste Claude Grison et l'ingénieur aéronautique Frédéric Pasternak, nommés respectivement dans les catégories PME, recherche et industrie. C'est un signal fort pour la capacité innovative de la France, bien sûr, qui marque cette nouvelle édition. Donc, le prix de l'invention européen 2022 met à l'honneur l'innovation et la recherche française avec la présence de ces trois finalistes parmi les 13 inventeurs ou équipes d'inventeurs sélectionnés originaires de 12 pays. Elodie Belnou, qui est immunologiste aux côtés de l'ingénieur suisse Ndio en biotechnologie Média Deroisi, finaliste aussi catégorie PME pour leur plateforme médicale de fabrication de vaccins thérapeutiques contre le cancer. Ça, c'est beau, ça, je tenais à parler. Et puis, il y a Claude Grison, qui est chimiste et finaliste catégorie recherche pour sa méthode de décontamination des sols pollués par des plantes mangeuses de métaux. Voilà. Et il y a Frédéric Pasternak, ingénieur aéronautique, finaliste catégorie industrie pour son instrument météorologique par satellite permettant d'améliorer considérablement la précision des prévisions météorologiques et des prédictions scientifiques sur le changement climatique. On est là-dedans. Voilà, c'est organisé par l'Office européen des brevets, OEB, le prix de l'inventeur européen célèbre depuis sa création en 2006. Des inventeurs et inventrices, bien sûr, enfin, hommes et femmes, si je dis inventeur, que je ne dis pas inventrice, c'est hommes et femmes confondus, dont les innovations apportent des réponses aux grands défis de notre temps. Et c'est sélectionné, ils sont sélectionnés par un jury d'inventeurs internationaux indépendants et les finalistes concourent dans quatre catégories. Industrie, recherche, pays membres de l'OEB, PME, donc l'OEB va décerner généralement un prix du public et un prix d'œuvre d'une vie pour récompenser la carrière et les accomplissements d'un inventeur ou d'une inventrice dont l'identité sera révélée au cours de la cérémonie de remise des prix. Donc, cette année, c'est les inventions sélectionnées parmi et qui mettent en lumière de grandes avancées dans la recherche sur le cancer, les énergies renouvelables, l'innovation climatique, l'industrie verte, les technologies médicales et l'industrie manufacturière. Voilà, comme je l'ai dit, les lauréats seront annoncés au cours d'une cérémonie virtuelle le 21 juin prochain, 2022. Voilà, ça c'est. N'oubliez pas, je vais parler un peu de ce projet de ce duo, la française et la Suissesse. Prix de l'inventeur, voilà. Elle a eu une entrevue avec l'agence France Presse, l'AFP, et puis Science Avenir. Et elle a répondu à certaines questions là-bas, dans la catégorie PME, bien sûr, pour leur plateforme de vaccins thérapeutiques contre le cancer. Oui, les finalistes. Voilà, ça, c'est. Ce prix est divisé en quatre catégories, ouais, comme je viens de le dire, tout ça. Avenir a demandé à cette jeune dame. Et à ces deux jeunes dames qui forment le duo qui respectivement immunologiste, pas immunologiste, immunologiste et ingénieur en biotechnique sont en finale pour obtenir le prix de l'inventeur européen 2022 dans la catégorie PME, petite et moyenne entreprise. Donc, les deux chercheuses ont été sélectionnées pour la création de leur plateforme médicale pour le développement de vaccins thérapeutiques dédiés à lutter contre le cancer, Kizima. Cette plateforme est conçue par la start-up genevoise Amal Therapeutics, fondée par Madia Derouazi en 2012. Et pour l'heure, des essais cliniques en phase 1 sont en cours sur des patients atteints de cancer colorecto. Voilà. Cette prouesse biotechnologique représente d'ailleurs beaucoup d'espoir dans la lutte contre le cancer, responsable d'un décès sur 6 dans le monde et d'un sur 5 en Europe en général. Voilà, donc les lauréats de l'édition 2022 seront annoncés lors de cette cérémonie virtuelle du 21 juin. S'ils gagnent, elles vont aller de l'avant avec leur projet. Et Elodie, sur son parcours d'immunologue et le projet vaccinal qu'elle porte avec l'équipe d'Amal Thérapeutique, dont elle fait partie depuis 2014, un vaccin thérapeutique destiné aux patients déjà malades. Voilà, on ne peut pas prendre ce vaccin pour se protéger contre une maladie qu'on n'a pas. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que on est déjà malade qu'on doit prendre ce vaccin-là, cette plateforme. Voilà. Et elle dit, j'ai une formation en immunologie, j'ai fait une thèse à Paris à l'Institut Cochin sur le rôle du système immunitaire dans la pathologie de la malaria cérébrale. J'ai effectué un post-doctorat à Genève pendant lequel j'ai étudié la réponse immunitaire du nouveau-né. Ce qui m'a toujours motivé dans ces recherches, c'est la façon dont fonctionne le système immunitaire, mais également son rôle. Donc c'est comme ça qu'est né ce vaccin-là. N'allez pas, ne cherchez pas quand ce serait disponible. Ah, je vais prendre ce vaccin pour ne pas avoir de cancer. Non, ça c'est fait, ce vaccin c'est fait pour les gens qui ont déjà un cancer. Voilà, il faut être clair. Donc, faut pas précipiter les choses. Quand on n'est pas malade, on n'a pas le cancer, on n'a pas un cancer, on ne va pas chercher à dire à son médecin, tiens, il y a un vaccin qui existe contre tel type de cancer, je veux avoir ça. Ça, c'est clair. Bon, je pense bien. Je vais revenir là-dessus. Oui, à partir du 21 juin d'ailleurs. Si elles sont gagnantes, je vais en parler ici pour le dire bravo. Et puis, de toute façon, ça, c'est un événement très, très, très important. Ça se passe tous les ans. Et puis, bon, je pense que ces jeunes filles auront la chance de décrocher le trophée là-bas, le prix. Quand on parle de prix, voilà, ça vient avec de l'argent. Ça va les pousser avec la somme d'argent qu'elles vont percevoir, ce duo, ces deux jeunes filles, la Suissesse et la Française, d'aller de l'avant avec leur projet, ce vaccin contre le cancer. Voilà, c'est intéressant. Voilà,
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Là maintenant, je vais parler un peu de climat. Voilà, le verre à moitié vide ou bien il est à moitié plein de l'atténuation. C'est une chronique de Céline Guivarch, qui est directrice de recherche à l'école des ponts, auteur principal d'ailleurs du 6e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, groupe 3, et Christophe Gassou, directeur de recherche du CNR au CNRS, auteur principal du 6e rapport du GIEC groupe 1. Et ça, c'est dans tous les aspects de la lutte d'ailleurs contre le changement climatique, il y a des signes de progrès, mais aussi des défis qui persistent, expliquent les chercheurs Céline et Christophe. Donc les technologies de bas carbone ont vu leur coût réduit de 90% en 10 ans pour l'énergie solaire, par exemple. Voilà. Donc, des solutions d'atténuation vont limiter le changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre existants, qui existent dans tous les secteurs, le transport, le logement, l'industrie, l'alimentation, l'agriculture, les forêts, les villes, les finances multifacettes. Elles résident dans des technologies de transformation de nos modes de consommation et de production d'ailleurs, et de nos infrastructures, de nos organisations sociales. Dans tous les aspects, il y a des signes de progrès, mais aussi des défis qui persistent, ainsi que qu'évalue le troisième volet du 6e rapport du GIEC publié début avril. Tout alarmant d'ailleurs, on se rappelle, c'était pas aussi jojo. Une vitesse de déploiement trop lente Un nombre croissant de pays voient maintenant leurs émissions territoriales baisser. Mais il y a un mec qui est là. Mais les émissions mondiales restent à la hausse. Ah oui. Et parce que tout le monde ne fait pas la même chose en même temps. Tout le monde ne voit pas ça de la même manière. Il y a des gens qui, il y a des chefs de gouvernement ou bien des entreprises, bien évidemment, qui mettent l'économie avant le changement climatique. Voilà. Donc, les technologies bas carbone ont vu leur coût réduit, comme je l'ai dit, et donc il est temps d'amplifier les progrès. C'est ça. Leur implantation accélérée, les performances améliorées, mais la vitesse de déploiement est trop lente pour rester sous le seuil de 2 degrés Celsius de réchauffement global. Et de plus en plus de politiques d'atténuation sont mises en place, mais elles restent en deçà de l'enjeu. C'est là où le bât blesse, ça je le dis. Donc l'engagement des citoyens, des entreprises vis-à-vis de la question climatique est également croissant. On fait tout, on trie nos déchets, on a les bacs, les différents sacs, les différentes poubelles, les poubelles orange, jaune, rouge, je ne sais quoi. Mais, il y a les décideurs qui doivent prendre les vraies décisions, les politiques, les entreprises, les grandes entreprises qui sont d'ailleurs les grands pollueurs. Voilà, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Et voilà, alors quand c'est comme ça, mais il ne faut pas les signer les gros contrats là-bas, les gros, faire les gros discours dans les bureaux teintés, aux vitres teintées. Et puis bon, en fin de compte, on dit, chacun doit faire sa part. Oui, on fait notre part, nous, en tant que citoyens. Oui, monsieur, madame, tout le monde, nous faisons notre part. Mais vous, les décideurs, vous, les entrepreneurs, vous, les chefs d'entreprise, surtout ceux qui sont dans le domaine de la pollution, essayez de prendre vos décisions pour nous permettre au moins de... Voilà. D'aller de l'avant, sinon on est tous mal barrés. Ça, il faut le dire. Je me permets de ce terme-là. On est tous mal barrés. Je préfère juste dire ça, mais rien d'autre. Voilà. Et il y a quelques minutes qui me restent. Je vais parler un peu de transport, puisque je parle de climat, transport. Il y a un laboratoire volant pour l'avion à hydrogène. Oui, ça c'est clair. Airbus, associé à Safran et à General Electric, va développer un avion à pollution à hydrogène qui va permettre de ne plus émettre aucun gaz à effet de serre. C'est bon comme nouvelle, non, Nicolas? Ouais, on espère. Parce que les avions polluent, hein, quand ils prennent leur vol, là. Bon, je me sens mal maintenant quand je sais que je suis en train de planifier un voyage, même si ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'avion. Voilà. Je sais que je suis en train de planifier un voyage, je me dis, ouh, voilà, je fais partie des pollueurs aussi, hein. Alors, donc ce laboratoire volant testera le stockage de ce carburant inédit, mais aussi l'alimentation du réacteur. Donc avec ce drôle de réacteur qui lui fait comme une excroissance sur le fuselage d'ailleurs, j'ai vu la photo, alors ça va attirer les regards, hein, parce que, et dans cet avion, ne pensez pas à autre chose, il n'aura pas des touristes, il n'aura que des ingénieurs chargés de tester grandeur nature l'avion à hydrogène. Pas de passagers. Non. D'ailleurs, en début d'année, le 22 février, Airbus a en effet annoncé la signature de ce partenariat avec les deux motoristes, le français Safran et l'américain General Electric, associés au sein de la structure CFM internationale afin de mettre au point cet avion démonstrateur. Voilà, c'est un début. Il faut que ces grandes entreprises aussi prennent les décisions pour qu'on puisse aller de l'avant, quoi. Il va être doté d'un réacteur à hydrogène en plus de ses 4 réacteurs classiques au kérosène. Remplacer 400 millions de tonnes de kérosène en 2050. C'est du boulot. J'espère qu'ils vont arriver. Voilà. Donc l'engin devrait prendre son envol fin 2026 au plus tard. Pour Airbus, il s'agit d'accélérer la cadence vers une limitation des émissions de gaz à effet de serre dans le sillage d'un rapport du groupe d'action du transport aérien qui a fixé l'année dernière comme objectif la neutralité carbone de l'aviation en 2050. C'est proche, hein? C'est pas dans 50 ans, là. On est en 2022, là. Voilà, c'est bientôt. C'est un défi, hein? C'est un défi considérable pour cela, car cela veut dire remplacer 400 millions de tonnes de kérosène en 2050, explique Nicolas Jeunant, qui est expert carburant du futur. J'aime bien ça, carburant du futur, chez Safran. Heureusement, il dispose de plusieurs voies pour y arriver, à commencer par les économies d'énergie, avec la mise au au point de moteurs plus performants et plus sobres, des avions plus légers, l'optimisation des routes aériennes, la diminution des temps d'attente au-dessus des aéroports. Alors, recours au carburant neutre en carbone. Merci à toi Nicolas, on se retrouve demain. Je dis merci à notre invité qui est venu nous parler de ce grand projet au niveau de, voilà, du parc Jean Drapeau, Laurence Sirard, ingénieur chargé de projet. Et merci à nos fidèles auditeurs pour une autre émission demain dans le même studio et sur les mêmes ondes de la radio Canal M, la radio de Vues et Voix. Alors, sur ce, voilà, je vous dis ciao et on se retrouve demain avec d'autres sujets.